Cité Radio, bienvenue dans les rendez-vous de l'IGAIA. Et ça se passe en Touraine. Bienvenue dans les rendez-vous de l'IGAIA sur Cité Radio. Je vous propose de partir à la rencontre d'un écrivain tourangeau, Eskia Durman, et de son second roman, Le Dernier Rempart sur le chemin de la vérité. Serge, bonjour.
Bonjour l'IGAIA.
Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
En quelques mots, ça va être rapide. Donc, je suis tourangeau d'adoption, parisien de naissance, juriste de formation, formateur de métier et écrivain par vocation.
Plein de choses en une.
Oui, certains m'ont dit souvent, vous n'avez pas une vie, vous en avez 12. Enfin, deux me suffisent amplement. Une bien remplie, parfois beaucoup de choses à faire. Mais si je m'écoutais, si j'avais les moyens de vivre sans travailler ou sans faire de mission, je ne ferais qu'écrire.
Ce qui est déjà un travail.
Ce qui est un travail énorme, puisque malheureusement l'écriture est un travail ingrat. On peut passer des heures devant un écran, lancer une page blanche, ou avoir une source d'inspiration inespérée, et écrire 30, 40, 50 pages d'affilée sans s'arrêter. Alors, on est un peu ciseleur dans notre métier, puisqu'on peut écrire de façon continue, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je commence un chapitre, je saute un deuxième chapitre, je commence un troisième chapitre, je reviens sur un deuxième, je cisèle, et puis je rentre dans les mots, je rentre dans les phrases, et je dis, non, ce mot ne convient pas, il faut le changer, etc. Donc, on est un peu un artisan, on est un tisserand, on fait des petites choses par petites touches. Chacun sa manière de travailler. Henri Troyat, c'était un fonctionnaire. Il se levait le matin, à 8h du matin, il était devant sa table de travail, il finissait à 17h, c'était comme un bureaucrate. Il a écrit des œuvres magnifiques. D'autres, ce sont plus des gens qui sont dans l'observation, qui voyagent. Je pense à Joseph Kessel. Je m'inscris plus dans l'esprit Kessel, sans l'aventurier, évidemment, parce que je n'ai pas ce goût du risque. Mais au moins, j'aime voyager. J'ai des projets sur des romans qui se passent à l'étranger. J'aimerais bien aller dans les pays, prendre les parfums, les odeurs, les couleurs, etc. Pour vraiment être très proche d'une réalité et pas dans une fiction. Voilà. Donc c'est vrai que l'écriture, c'est un travail extraordinaire. Et puis j'ai envie de me remettre à la photographie, à la musique, parce que ça me plaît beaucoup. Je crois qu'on travaille beaucoup mieux que du son, des harmonies. Et la photo, parce que j'en ai fait dans le temps en semi-professionnel, et j'aimerais recommencer à faire un peu de photographie.
Alors revenons à ce pourquoi nous sommes là dans l'interview, sur ton roman.
Voilà, tout à fait.
Donc ce second roman est en fait la suite de La forteresse perdue, Le diable de Sildir. C'est en fait une dilogie, mais c'est en fait un seul roman que tu as coupé en deux parties. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le contexte géopolitique, la date, les lieux où se passe l'action?
Tout à fait. La période, c'est 1920, plus particulièrement le printemps de 1920, pour des raisons que j'avais prévues à l'époque, donc de géopolitique particulière dans la région. Pourquoi 1920? C'est le creuset de beaucoup de montées de nationalisme. La guerre n'est pas terminée, elle se continue dans l'Empire russe, enfin l'ancien Empire russe, entre les bolcheviks et les blancs. Le tsar va être assassiné à Ekaterinbourg. Enfin, il y a tout un mouvement nationaliste entre la Perse, la Turquie, qui va surgir de l'Empire ottoman comme un phénix. Les nationalismes s'affirment. Les intérêts autour du pétrole, très important, où les Anglais ont pris pied un petit peu dans des provinces, des Émirats, etc. Commencé à comprendre que cette richesse-là va leur donner une puissance encore plus importante. Et les premières colonisations de la Palestine par les migrants juifs et le mouvement sioniste. Donc tout ce qui s'est passé en 1920, on le vit malheureusement dans des crises actuelles, sans vous rappeler évidemment ce qui se passe aujourd'hui au Liban, pays qui me touche particulièrement à cœur.
Et donc les personnages qui sont les protagonistes de ton histoire, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Alors Tigrane de Lambron est un chef de guerre, un héros malgré lui. Il a pu exister d'après mes différentes sources. C'est un personnage un peu désemparé, désabusé, en plein questionnement, entouré d'un certain nombre d'officiers qui sont d'origine, extraction différente, qui composent un peu une sorte de micro-société, peut-être un micro-monde de tout ce que pourrait être la région à l'époque, c'est-à-dire avec des juifs, des musulmans, des chrétiens, peut-être même des francs-maçons, voilà, il y a un peu tout ce mélange, des Russes évidemment, puisqu'on est quand même dans une province qui a été sous la coupe de l'Empire tsariste pendant des années jusqu'à la guerre de 14-18 et la perte de ses territoires après la révolution de 1917, en effet, et c'est un père évidemment qui a perdu son épouse et un de ses fils, et l'un de ses fils qui ne serait pas mort, dont il est en train de rechercher la trace. De l'autre côté, bien, le fils, on va le prénommer André, qui lui recherche son père avec d'autres idées en tête, peut-être un esprit plus revanchard entre un père absent. En fait, les rapports père-fils et mère-fille, puisqu'il y a aussi l'aspect entre la demi-sœur du prince et sa mère, qui sont des rapports, je dirais, assez profonds, où l'aspect familial va prendre une importance très grande, cruciale dans ce deuxième roman, qui est plus axé, je dirais, sur les rapports entre les individus, plus que sur une intrigue qui serait historique ou policière.
Oui, parce qu'effectivement, le premier roman, donc on retrouve les mêmes personnages, mais ça tourne essentiellement autour de deux meurtres qui sont commis et de la recherche de qui a fait et pourquoi, alors que la deuxième partie va plutôt s'axer sur la partie humaine de la chose et on va retrouver nos protagonistes, mais dans un aspect familial, fraternel, etc.
Tout à fait. On quitte la première partie sur un adolescent qui disparaît, retrouvé par un des personnages du roman, qui est un lieutenant du prince. Et ce personnage, on le retrouve dans le premier roman, mais au premier chapitre, et avec une identité nouvelle, et on va savoir qui est ce personnage-là. Enfin, les lecteurs m'ont dit, on subodorait déjà qui était le personnage. On n'est pas trop surpris, quoique après, c'est une autre vision, c'est autre façon de vivre l'événement par le deuxième personnage, qui est le fils, ce qu'il a vécu, ce qu'il a ressenti, pourquoi il est arrivé là, avec des différentes évolutions personnelles. Et ensuite, évidemment, c'est toute cette quête, comment les personnes vont se retrouver, toute cette magie de la relation, comment tout ça va se tisser, de façon à ce qu'on puisse avoir une fin plutôt heureuse, je dirais, sur un contexte qui est une tragédie, un drame humain, qui malheureusement perdure aujourd'hui.
Donc un mélange d'histoire, d'affaires criminelles et d'histoires familiales qui se finissent bien, si, pour ne pas vendre la mèche, mais qui se finissent plutôt bien.
Alors, on va pas vendre la mèche parce que ce serait un peu dommage, mais c'est vrai que ce mélange d'historique, qui a demandé énormément de recherches, puisque à la fin du roman, on m'a demandé également de mettre toutes les sources, c'est compliqué parce que certaines sont des sources que j'ai trouvées sur Internet, difficile de retrouver l'origine des éléments, mais ça demande énormément de travail, de documentation. C'est vrai que quand on n'a pas de documentaliste, ça demande beaucoup de temps, donc il faut être à la fois l'écrivain, le documentaliste, etc. Et puis essayer aussi de corroborer les sources pour voir si les choses correspondent, s'il n'y a pas des choses fantaisistes. Certaines sont un peu tirées par les cheveux, c'est vrai, mais bon, ça passe.
Donc si on aime l'action, l'histoire et tout ça, on va lire tes deux romans, donc La forteresse perdue, Le diable de Sildir, suivi de Le dernier rempart, Sur le chemin de la vérité.
Exactement.
Alors, est-ce que tu as des actualités maintenant ?
Alors, au niveau de l'actualité, on a refait un retirage de la forteresse, puisqu'on a épuisé le premier tirage. On peut le retrouver évidemment à la boîte à livres qu'il a référencé pour les deux tomes, chez Savoir-être, donc à la Tour Charlemagne, donc Rue Nationale pour la boîte à livres. Mon actualité, bon, s'il y avait beaucoup de salons qui étaient prévus, on avait Chanceau, la Forêt des Livres, annulé, des dédicaces qui étaient prévues également annulées. Il me reste quand même dans ma hotte le salon du livre de Vénier le 4 octobre, qui pour l'instant serait maintenu. Et Polar sur Loire, à Auckland Game, qui serait maintenu aussi. Ce serait deux événements sur lesquels on pourrait me retrouver. Alors, j'en ferai un peu la diffusion sur Facebook, sur Instagram, etc., pour faire venir mes lecteurs. Sinon, mon actualité, je travaille sur mon quatrième roman, et le troisième est en lecture, pour l'instant. Donc, si tout se passe bien, je devrais, ou j'aimerais le publier pour l'été 2021, un bon congrès de vacances, qui vous emmènera plus loin du côté de l'Atlantique, du côté du Brésil.
Très bien. Donc, pour plus d'informations, rendez-vous sur la page skdurman.com ou sur celle de l'éditeur ID France Loire et sur le site de Cité Radio où nous mettrons tous les liens. Serge, merci d'avoir répondu à mes questions et à très bientôt.
Merci les gaillards et à bientôt. Cité Radio.